Il n'y a pas de vie sans vocation, et il n'y a pas de vocation sans mission. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune vie qui ne soit en aucun cas appelée à être féconde. Toute vie est voulue et aimée par Dieu. Et chaque vocation a sa propre mission, avec cette propre question que nous pouvons nous poser. Mais qu'est-ce que le Seigneur attend finalement de moi ? Et ce jour, trois vocations nous sont données à notre méditation. Celle d'Abraham, le père des croyants, celle de Pierre, Jacques et Jean, les fidèles disciples du Seigneur, et aujourd'hui la figure du petit pauvre d'Assise, saint François. La première vocation de tout homme est d'abord de vivre. C'est ce que souhaite pleinement le Seigneur pour chacun de nous. Mais une vie qui lui soit donnée, une vie qui lui soit dédiée. Isaïe nous dit combien le Seigneur a à cœur de porter chacun de nous, au point qu'il a gravé notre nom dans le paume de ses mains. Et nous appartenons tous à Dieu de façon indicible. Et dans la première lecture, nous avons entendu la vocation d'Abraham, le père des croyants. Le Seigneur lui dit « Quitte ton pays, je bénirai ceux qui te béniront ». La Genèse nous dit qu'Abraham avait 75 ans. Et dans toute vocation, l'initiative vient d'abord de Dieu. C'est lui qui nous établit, c'est lui qui nous choisit. Et nous avons simplement à être malléables à cet appel, nous laisser façonner par lui et ainsi nous ajuster à sa propre volonté. Simplement, tout appel demande de quitter quelque chose. Le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays, ce qui pourrait signifier de quitter nos propres certitudes humaines. Il nous faut donc faire confiance au Seigneur pour aller du connu vers l'inconnu. Quitter, c'est-à-dire obéir, sachant que le sens d'obéir est simplement de savoir écouter, mais écouter la parole du Seigneur qui fonde tout appel et toute vocation. Le Seigneur lui dit « Sois une bénédiction, car à travers chacune de nos vocations, nous recevons une bénédiction, non seulement pour nous-mêmes, mais vis-à-vis de toute personne vers qui nous sommes envoyés. Et avec cette bénédiction, nous formons un seul corps, c'est-à-dire une même âme qui s'élève dans le monde vers le Seigneur. Cette bénédiction commune nous relie les uns aux autres, parce que toute vocation a cette fécondité, celle de vivre justement l'altérité les uns vis-à-vis des autres. Et c'est ce qui fera dire saint Jean, en relatant les paroles du Seigneur, « Je vous ai choisi pour que vous portiez du fruit, et surtout que votre fruit demeure. » Pierre, Jacques et Jean ont eux aussi tout quitté pour vivre de cette intimité avec son Seigneur, notre Seigneur, qui fut leur maître, qui fut leur guide. Et Jésus lui-même va leur faire cette grâce inouïe, celle de se laisser transfigurer devant eux. Simplement, pour comprendre ce texte si déroutant pour nous, il nous faut comprendre l'indicible. C'est-à-dire que nous faisons tous l'expérience que parfois les mots nous manquent pour décrire les expériences que nous faisons de cette intimité avec notre Seigneur. Alors l'évangéliste Matthieu procède par allusion et par image. Et c'est cette accumulation d'images qui veulent dire pourtant la même chose. Il y a l'image de la montagne, le visage brûlant comme le soleil, les vêtements blancs comme la lumière. Il y a aussi l'image de la nuée, c'est-à-dire que montagne, lumière, splendeur, nuée correspondent traditionnellement aux apparitions divines. En clair, pour les lecteurs de Matthieu, nourris de cette culture juive, ce récit présente Jésus comme une apparition divine, comme l'envoyé de Dieu, comme celui qui vient d'en haut pour inaugurer le règne de Dieu. Mais ce n'est pas tout. Moïse et Élie sont également présents. Et nous savons que ce sont des personnages essentiels dans l'histoire du peuple d'Israël. S'ils sont là, c'est bien pour signifier que Jésus est bien celui dont tout l'Ancien Testament préparait la venue, celui que l'on attendait. Et pour qu'on en soit sûr, la voix du Père proclame « Oui, c'est bien lui, mon Fils bien-aimé, surtout écoutez-le ». Nous pourrions noter que cette apparition du Christ glorieux vient à point. Jésus transfiguré avant d'être défiguré. La foi des apôtres Pierre, Jacques et Jean sont tellement ébranlés quand ils verront Jésus défiguré, couronné d'épines, affublé d'un manteau de pourpre. Jésus va mourir en croix sous les rires moqueurs des passants et dans le silence et la non-intervention de Dieu. Est-ce que cela ne serait pas que Dieu ne le reconnaît pas comme son Fils et qui donne finalement raison à ceux qui l'ont condamné comme un imposteur? C'est à cette question que la transfiguration dont Matthieu a composé le récit veut répondre par avance. Jésus sur le point de prendre le chemin cruel de Jérusalem, où il sera crucifié, fait d'abord entrevoir à ses apôtres sa résurrection. Il leur laisse deviner à quelle lumière, à quelle splendeur conduit la fidélité envers Dieu, et cette fidélité que nous avons à vivre jusqu'au bout. Mais lui, le Christ, la vivra pleinement, puisqu'il en mourra sur la croix. Mais cette mort se changera en lumière et en vie pour chacun de nous. Il y a eu la vocation d'Abraham, la vocation de Pierre, Jacques et Jean. Et il y a tout juste 800 ans, une petite poignée d'hommes ont contemplé en Saint François un alter Christus, c'est-à-dire un autre Christ. Ils ont vu sur la montagne d'Assise la lumière intérieure du Seigneur qui dévorait le jeune Francesco di Bernardone. Et à sa suite, ils ont voulu témoigner des merveilles de Dieu agissant dans cet homme, dans ce petit pauvre. Ces hommes ont rêvé d'annoncer au monde la nouvelle radicalité, la découverte qu'il était possible de vivre de l'Évangile en toute simplicité. François, de par sa mère, nous dit les diverses sources, était provençal, c'est-à-dire que sa mère parlait la langue d'oc, qui est un des dialectes de notre pays, et que saint François aimait s'adresser à Dieu en vieux français, en langue d'oc, puisque c'était la manière dont sa mère lui avait transmis la foi. Et François était profondément imprégné par notre pays, la France. Combien de fois ne s'est-il pas rendu en Champagne, justement pour aller avec son père, acheter ces fameux tissus qui feront la richesse familiale? Alors je riais avec le frère Henri pour savoir si François était passé dans son village. Je ne sais pas ce que dirait la tradition. Mais lorsque François voulut venir lui-même fonder l'ordre en France, ses premiers frères ont refusé de le laisser partir au-delà des Alpes, parce qu'ils pressentaient combien cet homme était un trésor déjà pour le pays tout entier, à savoir l'Ombrie. Et à grand regret, saint François se résigna à rester en Ombrie, justement, et il envoya un premier groupe de frères, dont nous savons que le frère Pacifique en faisait partie. On nous dit qu'il était le roi des poètes, qui parlait la langue des troubadours. Et ses premiers frères sont partis fonder la première communauté dans le royaume de France en 1217. Et le choix s'arrêta, lorsqu'ils remontèrent la vallée de la Saône et du Rhône, sur la colline de Vézelay, qui est un haut lieu de la Bourgogne et proche de la grande abbaye de Cluny, et qui est aussi un des grands départs pour les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et les frères reçurent le nom familier de Cordeliers. Pourquoi Cordeliers? Vous savez que dans notre habit, nous avons une grande corde et que celle-ci est liée par des nœuds. Et par extension, justement, les frères étaient reconnaissables à leur corde, d'où le nom de Cordeliers. Et en 1223, François enverra lui-même un jeune Portugais qui commence à se faire remarquer par sa science et par sa pureté. le jeune Fernando de la ville de Lisbonne, qui en rentrant dans l'ordre prendra le nom d'Antoine. Et quelques semaines après l'arrivée de saint Antoine en France, en tout cas dans notre sud-ouest, eh bien saint François sur le mont Alverne contemplera dans sa chair stigmatisée la passion de notre Seigneur, devenant ainsi le premier stigmatisé de l'histoire. Saint François envoya donc le futur saint Antoine dans la région du Limousin, alors aux prises avec l'hérésie cathare. Et Antoine resta dans notre région 3 ans, et nous savons, puisque nous le célébrons régulièrement, que c'est ici à Brive, avant de repartir en Italie et de décéder à Padoue, cette ville qui fait face à Venise, eh bien que saint Antoine fondera un couvent dans le centre de Brive et le pèlerinage sur lequel nous sommes aujourd'hui. C'est pour cette raison que nous sommes réellement dans l'immense action de grâce. Parce que l'ordre a résisté à toutes les guerres de religion, à la réforme, l'ordre en France a résisté à l'Ancien Régime, à la Révolution française, aux deux empires, aux lois anticléricales, aux deux dernières guerres mondiales. Et les frères du premier ordre, franciscains, capucins et conventuels, ont réussi ce défi de traverser ces 8 siècles en France et d'être toujours des témoins puissants de la vitalité de l'esprit d'Assise, de la pertinence du regard de saint François sur Dieu et sur le monde. Et c'est pour ça, en concluant, aujourd'hui, les frères, les 7 frères que nous sommes, du premier ordre, et bien sûr, la famille franciscaine assemblée ici à Saint-Antoine, nous sommes si fiers d'appartenir à cette grande lignée de frères, de saints, de figures connues et inconnues. Et si nous pouvons toujours exister dans notre pays, malgré la baisse numérique implacable pour notre province, n'est-ce pas parce que cette intuition ne vient pas de nous, mais qu'elle est voulue et désirée par Dieu? Alors que le petit pauvre d'Assise veille toujours sur notre pays, la France, sur chacun des frères présents dans notre province et dans ce lieu à Brive, et que notre fécondité continue de donner au monde cette manière si simple d'aimer et de faire aimer notre Seigneur. Amen.